La religion aujourd'hui, elle blanchit la surface. La puissance de l'évangile, elle transforme l'intérieur du cœur. La religion, ce sont des bons principes de moralité, mais la foi, elle regarde qu'à la croix. À la croix seule. Pour toi, est-ce que les chrétiens et les musulmans ont un même Dieu ?
C'est une question justement que j'allais te poser.
Moi, je te la repose. Déjà, d'une part, il ne faut pas confondre la conversion et l'occidentalisation. Jésus, il n'est pas né à la Maison Blanche. C'est un sémite, c'est un oriental. Il mangeait des tacos et des kebabs à son époque.
Si t'es marocain, algérien, tunisien, t'es forcément musulman.
Ouais, c'est l'équation, elle est vite faite. Et... alors que nos ancêtres, c'est pas les Gaulois, c'est saint Augustin, un des plus grands pères de l'Église. Avant que votre France devienne chrétienne, avant que vos Gaulois deviennent chrétiens, nous avions déjà des grands théologiens en Afrique du Nord, saint Cyprien, Tertullien. Le Christ Yeshua al-Masih, il n'a jamais péché. Les hadiths nous disent que le péché ne l'a même pas effleuré. Mohammed, il meurt avec ses péchés. Alors que Yeshua al-Masih, il est pur, il est sans tache. Il faut être cohérent, il faut être aussi précis. On ne peut pas dire que la Bible a été falsifiée. Parce que Mohammed lui-même nous recommande de lire les évangiles. Donc un musulman qui vient vers moi et qui me dit « Saïd, je veux me convertir », j'y réfléchis à deux fois, c'est pas Disneyland là. Donc je préfère le décourager que l'encourager et je suis obligé de lui dire, parce qu'on fait pas de la conversion, nous on n'est pas dans une entreprise de Coca-Cola, on n'est pas des Américains. Je dis « Mais t'es malade, tu quittes une sphère pour rentrer dans une autre sphère, mais la sphère dans laquelle t'atterris, elle est plus dans une dimension individuelle, individualisante, indifférente que communautaire. Parce que la Oumma musulmane, la communauté musulmane, elle est puissante, elle est forte dans nos quartiers. Alors que quand on se convertit chez vous, on est seul.
Un seul sacrifice, un seul sauveur, un seul retour. C'est pour la gloire du Fils. On s'offre le même en retour. Frérot, tu sais qu'on est dévoué, 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 dévoué. Jusqu'à la mort, on est dévoué, 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 dévoué.
Yo l'équipe, c'est ton gars Joe. Et c'est toujours 5 solas pour le salut d'une seule âme. Par un seul Dieu, un seul homme, Christ le Shiloh. Shalom, salam. Et aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur, le privilège d'accueillir mon frérot, Saïd.
Shalom alaikum.
Comment ça va, Saïd ? La forme ?
Ouais, on fait aller.
Mais ça fait trop plaisir de t'avoir.
Écoute, c'est une grande joie, c'est partagé. Salam alaikum. Ana farhan ktir nkoun ma'akoum. Rabbi barakoum. C'est vraiment un plaisir, un privilège d'être sur ce plateau et entouré d'un barbu, une pilosité vraiment extrême, j'ai jamais vu ça. Un évangélique djihadiste salafiste qui a des saxophones. Et toi bien ?
Moi tranquille, hein, peinard, ça va.
Fait plaisir, ouais. Frérot.
Je pense que beaucoup te connaissent, mais justement pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi et à qui tu es dévoué ?
Écoute, c'est étrange comme question. On m'a jamais posé ce type de question. À qui je suis dévoué ? Je suis d'abord dévoué à moi-même. Je suis dévoué à une famille, puis je suis dévoué à Christ. C'est ça mon dévouement, c'est de pouvoir le faire connaître, c'est de pouvoir en tout cas faire rayonner la puissance de sa parole. Non, j'ai un dévouement, je suis dévoué uniquement en tout cas à cette cause, c'est ma vie, c'est ma respiration, c'est ma façon de parler, ma façon de m'exprimer, c'est aujourd'hui mon but, mon cœur, mon battement, c'est mon chant, c'est ma vie, quoi.
Et comment justement t'es dévoué à Christ et à l'évangile concrètement ? En fait, c'est quoi ta vie ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je me lève comme toi le matin déjà. Je me réjouis de ce jour de plus que le Christ m'a donné. Dans cette société dans laquelle on est, on a tellement besoin aujourd'hui de se retrouver d'abord soi-même. Et se retrouver d'abord soi-même, c'est se retrouver d'abord intimement avec celui qui nous a créé, le créateur de toutes choses. De pouvoir après, je dirais, affronter le monde dans lequel on est, un monde qui est compliqué, un monde difficile, mais en même temps un monde qu'on peut surmonter avec la puissance de vie, avec la puissance de sa parole.
J'ai l'impression que tu n'as pas été très concret. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Ah, je ne sais pas, moi-même.
Ah oui ?
En fait, mes enfants, ils m'ont trouvé 52 métiers différents. Donc, ce que je fais dans la vie, c'est assez compliqué. Ça dépend l'heure, ça dépend la saison, ça dépend les circonstances. Par exemple, hier, j'étais sur la Foire du Trône où j'ai fait à peu près 8 émissions pour TBNFR. Il y a 2 jours avant, je suis sur un cas assez particulier d'un papa chrétien qui est en prison. Donc, il y a tout un travail à faire auprès des autorités, auprès des familles, etc. Je suis consultant en prévention urbaine, médiateur socio-religieux. Dans mon temps gratuit, un peu humoriste, parce que j'ai 2 stand-up, Liberté, Égalité, Couscous, Le Fils Prodigue en version orientale, je joue dans l'océan Indien.
Moi, c'est là que je t'ai vu la première fois, c'était à Argenteuil. Tu faisais ton spectacle sur Le Fils Prodigue.
C'était en 1914,
c'était le siècle passé, je crois.
La salle Jean Villard. D'ailleurs, on avait fait le plein, je crois, plus de 1000 personnes.
Ah, c'était fou.
Ce que je fais, c'est que je suis aussi pasteur itinérant. Et puis, mon engagement politique aussi, parce que j'ai cofondé ce qu'on appelle l'UEP, l'Institut d'éthique politique. J'invite un homme politique quasiment une fois par mois pour pouvoir un petit peu partager nos valeurs, des valeurs qui sont essentielles aujourd'hui pour la France. J'ai aucun souci, je fréquente tous les milieux.
C'est précieux ça, ta place en fait dans la société, c'est lourd de fou.
Ça devrait être la place de tous les chrétiens. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont dans une théologie de l'enfermement. Ils sont dans un ghetto évangélique, ils sont tellement bien dans notre soi, ils sont dans leur jacuzzi spirituel. Et je pense que c'est important de se projeter dans la société, d'être pertinent, intelligent et pas être en décalage. C'est important.
Non, c'est trop bien qu'on puisse rayonner dans le monde comme ça. Aujourd'hui, le thème, ça va être sola fide.
D'accord.
Donc, la foi seule.
La foi seule.
Et je suis trop content de pouvoir en discuter avec toi de ce sujet-là. On va essayer de le creuser un peu. Il est important parce qu'il nous rappelle qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais seulement par la foi en Jésus.
Oui.
Et donc par grâce.
C'est pas parce qu'on est sauvé par la foi qu'on se la coule douce non plus, quoi.
Ben c'est ça.
Parce qu'il y a la grâce, l'hypergrâce, et puis l'hypergraisse chez les chrétiens évangéliques. Mais la foi, c'est quelque chose, pour moi, c'est pas un sentiment, c'est pas une sensation, une pulsion. La foi, c'est vouloir donner une nouvelle dimension spirituelle à sa vie. Et le problème, c'est que c'est cette compréhension de la foi qui me dérange un petit peu dans certains milieux, quoi.
Oui, un peu le truc de dire, ben, si c'est par grâce, on peut continuer de pécher, vivre
douce,
notre vie comme on veut. Une contradiction avec le message de la Bible. Si je suis mort au péché, je ne vais pas continuer de pécher. Donc,
amen.
Ça, c'est sûr, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais justement, dans les religions, on parle de ce qu'on doit faire ou de rites à accomplir pour atteindre Dieu, ou alors pour atteindre le salut, pour atteindre parfois une dimension de paix, de sainteté, etc. Toi, tu as grandi dans l'islam.
Oui.
Y a aussi ça, je pense, tu vas me dire, hein, mais comment tu vois aujourd'hui justement la particularité du message de l'évangile par rapport à toutes ces religions?
Déjà, si je reste sur mon arrière-plan, arabo-musulman, moi je suis très admiratif, subjugué, frappé par la foi des musulmans. Et dans leur pratique, je trouve ça extraordinaire de pouvoir se lever à 5 heures du matin, faire sa première prière. Ce sont effectivement peut-être des prières, des rites, c'est peut-être répétitif, mécanique, mais en même temps de voir le sérieux, la force, la puissance avec laquelle, je dirais, ils pratiquent leur religion. Effectivement, l'islam est une religion d'œuvre. Mais beaucoup de musulmans pratiquent l'islam avec force, avec amour, avec conviction. Et il y a une sincérité, il y a une honnêteté, il y a une piété, il y a une spiritualité chez beaucoup de musulmans. On peut dire qu'ils essayent d'atteindre Dieu d'une manière charnelle pour essayer de gagner quelque part un bénéfice, une barakette. Mais quand je regarde le sérieux avec lequel ils pratiquent l'islam, par exemple le ramadan, 30 jours du lever jusqu'au coucher du soleil, pas de nourriture solide ni liquide. J'en vois sur des chantiers de travail à 35-40 degrés et pas une goutte d'eau. Et quand je vois cette ferveur, je dis effectivement, ça peut être une religion d'œuvre, mais à l'intérieur du cœur, il y a quand même une honnêteté, une sincérité, il y a une piété chez les gens. Il y a une étincelle du divin chez chaque individu. Mais ce qui est dingue, c'est que dans le milieu, par exemple, évangélique, même après la conversion, on voit certains réflexes religieux chez certains chrétiens, parce qu'ils n'ont pas justement compris la notion de la grâce. La grâce, elle ne s'achète pas, la grâce, elle ne se monnaie pas. J'ai l'impression qu'on vit plus dans la peur, sous le regard du pasteur, que sous le regard du Christ. Et ces réflexes religieux, malheureusement, je les retrouve aussi chez les chrétiens. J'ai rencontré une femme chrétienne dernièrement qui m'a dit « Ah, monsieur le pasteur, j'ai fait un accident. » Mais heureusement que j'avais ma Bible dans la voiture. Donc c'est fétichisant quelque part.
Bah oui.
Et on retrouve ces réflexes religieux un petit peu aujourd'hui dans tous les milieux. C'est pour ça que cette notion de grâce, elle doit être véritablement comprise et creusée. Maintenant, effectivement, la religion aujourd'hui, elle blanchit la surface. La puissance de l'évangile, elle transforme l'intérieur du cœur. La religion, ce sont des bons principes de moralité. Par contre, effectivement, la croix, c'est une divine proclamation. La religion, elle regarde aux œuvres. Mais la foi, elle regarde qu'à la croix. À la croix seule. Et c'est ça la grande différence aujourd'hui. Il n'y a pas d'intimité dans l'islam. On ne peut pas dire à Dieu « je t'aime », par exemple. Et dans l'islam, quelques qualificatifs, c'est que Dieu, il est inconnaissable. Il est impénétrable. Allah Ta'ala, il est aussi inaccessible. Mais Dieu, pour nous, aujourd'hui, qui le connaît? Celui qui m'a vu
a vu le Père.
A vu le Père. Et je pense que c'est dans la nature qu'il faut décrire les choses. Dieu reste Dieu. Mmh. Et je pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je te pose une question. Pour toi, est-ce que les chrétiens et les musulmans ont un même Dieu ?
C'est une question justement que j'allais te poser.
Ah ben moi, je te la repose.
Bah, en fait, j'aurais tendance à dire qu'il y a un seul Dieu, comme tu dis.
Bien sûr.
C'est pas comme s'il y avait de la concurrence. Il y a un seul Dieu, c'est lui qui a tout créé. D'ailleurs, c'est ce que Genèse nous dit, hein, la manière dont c'est décrit. Il n'y a pas le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu de la mer ou de la terre. Non, il y a un seul Dieu qui a créé tout ça. Maintenant, il y a différentes croyances. Et le Dieu qui est décrit dans l'islam ou dans d'autres religions, ce n'est pas le Dieu qui est décrit dans la Bible. Tu vois ? Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas le même Dieu. Mais je dirais que, du coup, ce n'est pas Dieu tout court. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr, bien sûr.
J'aurais tendance à dire que le seul vrai Dieu, c'est celui qui s'est révélé en Jésus-Christ, c'est le Dieu trinitaire, c'est le Dieu de la Bible, et que les autres conceptions de Dieu, et parfois même dans le milieu chrétien ou évangélique, on peut avoir des fausses conceptions de Dieu.
Bien
sûr. Tu vois ce que je veux dire ? On peut penser que Dieu est de tel...
Un Dieu légaliste.
Oui, un Dieu légaliste, ou au contraire, un Dieu qui fait tout ce que je lui demande. Ou...
Oui.
Enfin, tu vois, on peut avoir une mauvaise vision de qui est Dieu ou de qui est Jésus.
Oui.
Et ce n'est pas le Dieu ou le Jésus de la Bible.
Bien sûr.
Donc je pense que la question, elle est là. Est-ce que le Dieu auquel je crois, c'est celui qui est révélé dans la Bible, tu vois? Et je pense que du coup, si ce n'est pas le cas, bah, ce n'est juste pas Dieu. C'est peut-être le Dieu que je me suis imaginé,
oui,
ou le Dieu que je me suis créé, ou alors un démon dans le pire des cas, tu vois?
Effectivement, il n'y a qu'un Dieu. Il est créateur, provident pour toute l'humanité, effectivement. La question maintenant, c'est vrai que quand on compare... les deux théologies, les deux doctrines, les deux livres, quand on part en voyage dans le texte coranique, il ne nous révèle pas la vérité d'un Dieu qui est amour, qui est ce Dieu qui se donne gratuitement. Cette notion de grâce, par exemple, elle n'existe pas dans l'islam. Il y a des points de convergence, il y a des points de divergence. Mais dans l'islam, effectivement, ce Dieu créateur, il gouverne, il donne des ordres et tout lui reste finalement étranger.
Mmh.
Nous sommes considérés comme des esclaves. On n'est pas considérés comme enfants. Et ce qui, moi, m'a beaucoup interpellé et qui m'a vraiment déstabilisé, c'est quand j'ai appris que j'étais enfant de Dieu.
Mmh.
Et ça, ça déstabilise. Et quand cette notion de la paternité divine, de la seigneurie de Jésus, crie, se révèle à toi, tu rentres dans une dimension qui est époustouflante. Et là, c'est là où tu réalises que la doctrine coranique ne révèle pas la vérité sur... la notion du Père, et cette paternité du Père, quand on l'expérimente, c'est foudroyant. Celui qui est venu, il est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses, c'est ça qui est extraordinaire, et il nous invite à vivre comme des enfants du Père. J'aime quand le ciel s'ouvre, cette voix de Dieu, elle se fait entendre, et elle te dit, celle-ci est ma fille, celui-ci est mon fils bien-aimé. En arabe, azizi, bien-aimé, c'est un terme qui est tellement puissant, qui est en même temps maternel, parce que Dieu, il est masculin, il y a ça dans l'hébreu, mais en même temps, en arabe, on le retrouve dans l'hébreu aussi, Rahman. Rahma, ça vient des tripes, on est en cathartique. C'est comme la poule qui prend ses petits poussins sous ses ailes. Il y a une tendresse d'une mère aussi en Dieu.
Mmh.
Et c'est incroyable, quand on expérimente cette notion de la grâce qui est divine, à quel point Dieu nous aime, à quel point il a un père, puis en même temps, il a les entrailles d'une mère. Ça retourne. On n'est plus la même personne. Je pense qu'on est électrocuté à 2000 volts quasiment. Mmh. Même les cheveux bouclés frisés, qu'on fait un défrisage brésilien, il n'y en a plus.
Mais justement, tu vois, Galates 3, verset 26 dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. »
Amen.
Donc, on devient enfant de Dieu parce qu'on a placé notre foi en Jésus. C'est par la foi, c'est pas par les œuvres.
Bien sûr.
Et ce que tu me disais, ça me faisait penser aussi à dans Romains 8, l'idée que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que c'est par cet esprit qu'on peut crier « Abba, Père ».
Amen. Mais il y a Galates 2:20 avant tout qui dit « Ce n'est plus moi qui vis.
Mmh. » C'est Christ qui vit en moi.
Et je pense que ça, c'est le début. C'est hyper important. Déjà, d'une part, il ne faut pas confondre la conversion et l'occidentalisation. Jésus, il n'est pas né à la Maison Blanche. C'est un sémite, c'est un oriental. Il mangeait des tacos et des kebabs à son époque. Mais il y a aussi Galates 2:20. J'ai dû mourir à moi-même.
Mmh.
Pour pouvoir renaître spirituellement. Ce vieux Saïd a été enterré, crucifié, avec toute une arrière-plan derrière. Il y a des choses que j'ai gardées. Mmh. J'ai tourné le dos aux cinq piliers, mais je n'ai pas tourné le dos à des choses qui sont...
À ta culture.
Ma culture. qui n'est pas une tare, qui est une richesse. Mmh. J'ai une double appartenance, j'ai une nouvelle identité. Mon identité, elle est en Christ. Ça, c'est important, parce que beaucoup ne réalisent pas qu'après la conversion, cette nouvelle naissance, elle passe par la mort. Il faut crucifier ce moi, il faut crucifier cette nature. Mmh. Et même dans le baptême, qui est une image, nous avons été ensevelis, celui qui sort, c'est un nouveau Saïd. Oui. Mais en même temps, je suis très bien âgé, même si j'ai été baptisé. Donc il y a cette crucifixion du moi, il y a cette vieille nature qu'elle a, ces œuvres mortes, il faut aussi, les crucifier pour pouvoir rentrer dans l'homme nouveau. C'est important.
C'est trop intéressant, j'ai envie de... On va revenir sur plein de sujets que tu as abordés, mais là, tu parles justement de ce fait que tu n'abandonnes pas non plus toute ta culture.
Non.
Et tu as dit, la conversion, ce n'est pas une occidentalisation.
Absolument pas.
Parfois, il y a ce risque-là de penser que, vas-y, parce que je deviens chrétien, j'abandonne ma culture, j'abandonne tout ce que je suis, tout mon passé.
Si les choses sont contre-bibliques...
Oui, c'est ça.
C'est clair que je ne vais pas faire de compromis. C'est là où la puissance de la religion, elle est différente de la puissance de l'Évangile. C'est que l'Évangile ne fait pas de compromis. S'il y a des choses qui sont contre-bibliques, nous, on ne peut pas négocier avec ça. Par contre, la religion, la puissance, la force de la religion, c'est qu'elle peut épouser tout contexte politique, spirituel, économique, les coutumes, les traditions. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle l'islam populaire aujourd'hui. On a un islam populaire qui s'est développé bien après l'islam, parce qu'il a épousé le contexte et tout ce que l'islam ne peut pas, je dirais, gommer, effacer. On l'intègre dans la religion, on le défigure, on le déforme, et on inscrit ça, par exemple, dans une logique islamique. Je prends, par exemple, l'exemple de la musique.
Oui.
C'est haram, c'est illicite dans l'islam. On va en Afghanistan, c'est des cages avec des oiseaux, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de « Jesus, move it, move it, move it », il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. Par contre, en France, effectivement, on a Enti Kayam, Sniper, Abdelmalik, etc., Jams... On ne peut pas lutter contre la musique, mais justement, on va se servir de ces rappeurs, slameurs, pour justement, les quelque part, leur faire une virginité, en essayant de tolérer ça, et justement, on sert d'eux pour pouvoir attirer des jeunes. Mmh. Donc, mais nous, en tant que chrétiens, on ne fait pas de compromis. S'il y a des choses qui sont contre-bibliques, la parole reste la parole. C'est là où il y a une grande différence entre la religion et la puissance de l'Évangile.
Et ton cas, justement, sur ce sujet-là, je pense qu'il va être intéressant. Ton témoignage, toi, tu as grandi dans l'islam, mais aussi dans la culture arabe. Tu es d'origine marocaine, c'est ça?
Oui, mais je ne suis pas arabe. Je suis afro-berbère.
Ok.
La plupart des gens pensent que nous sommes arabes. Arabe, c'est spécifiquement une région qui est aujourd'hui au Moyen-Orient. C'est l'Arabie saoudite. Les Arabes viennent de cette région-là. Par exemple, les Libanais, c'est les Phéniciens.
Mmh.
Les Iraniens, c'est les Perses. Donc, on a plusieurs empires là-bas. Ouais. Mais les vrais Arabes viennent d'Arabie Saoudite. Je pense qu'on a été, je le dis, arabétisé, arabrutalisé, quelques siècles après. Mmh. Mais je suis africain. Mon grand-père est noir.
Okay.
D'ailleurs, le premier homme est noir. Après, vous êtes tombé malade et on est devenu blanc comme toi.
Bah, mais c'est vrai qu'arabe, c'est souvent une manière un peu de généraliser. C'est un genre d'amalgame, en fait, qu'on
oui,
fait.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais il y en a qui pensent que si t'es marocain, algérien, tunisien, t'es forcément musulman, tu vois.
Oui, ouais, c'est l'équation, elle est vite faite, quoi.
Voilà.
Ouais. Et... Alors que nos ancêtres, c'est pas les Gaulois, mais nos ancêtres, c'est saint Augustin, l'un des plus grands pères de l'Église. Avant que votre France devienne chrétienne, avant que vos Gaulois deviennent chrétiens, d'accord, nous avions déjà des grands théologiens en Afrique du Nord, Saint-Cyprien, Tertullien. Nous avions des églises en Afrique du Nord.
Oui, complètement. Non, mais ça, c'est bien de le dire. Mais je voulais savoir, justement, ta conversion. Comment tu l'as vécue, justement, à ce niveau-là, au niveau culturel? Qu'est-ce que tu as gardé, en fait? Qu'est-ce que tu as rejeté de ta culture?
Oui. Ben, disons que ce que l'on garde automatiquement, c'est les bonnes choses que m'ont inculquées, que m'ont transmises mes parents. Celle du respect des anciens, celle du respect des personnes âgées. Nous, on se débarrasse pas pour les mettre dans des maisons de retraite. On n'attend pas un héritage. Nos parents, pour nous, c'est sacré. Les personnes âgées, les cheveux blancs, c'est un honneur. On leur embrasse la main droite, on leur embrasse le front.
Mmh.
Pour nous, on écoute. Je dirais, quand ils tranchent, quand ils donnent une parole, c'est avec beaucoup de respect, avec beaucoup de révérence, qu'on s'adresse à des aînés, à des anciens. Ce que m'ont transmis mes parents, c'est cette notion de partage, de solidarité. Par exemple, nous avons des pauvres. À Marrakech, on a beaucoup de pauvres. Au Maroc, on a beaucoup de pauvres. Mais les pauvres, chez nous, ne meurent pas de faim comme chez vous en France. Je donne un exemple. Si je vais en France dans un quartier résidentiel et que je frappe à une porte à 23 heures, un 14 juillet par exemple, je suis sûr que ces gens-là vont appeler la police. Mais si vous venez dans un quartier populaire, quartier de la Dalle à Argenteuil, vous allez dans n'importe quelle cité, à n'importe quel étage, vous toquez après la porte et vous dites simplement « Monsieur, voilà, j'ai faim ». Il y a cette notion de solidarité, de fraternité, de partage que j'aime dans ce que m'ont inculqué aussi mes parents. Il y a aussi la pudeur. Chez nous, il y a cette notion de moralité, de pudeur, elle est importante. Aujourd'hui, on ne peut pas regarder la télévision en France sans nous montrer une femme qui est dénudée, sans nous vendre une voiture avec une femme qui est nue. Et cette notion de respect, pour nous, elle est essentielle, elle est importante dans la culture, on va dire, arabo-islamique. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Aujourd'hui, on me demande de m'assimiler, mais m'assimiler à quoi ? À toutes ces choses-là, non. Je ne peux pas devenir blanc plus blanc, transparent, parce que là, c'est l'intégration par l'absorption. Mais quelque part, j'ai gardé mes valeurs, et mes valeurs, elles sont importantes. Même si je dis, bien, j'ai tourné le dos aux 5 piliers. J'ai fondé 5 autres piliers aujourd'hui dans ma vie, mais les 5 piliers de l'islam, ils sont derrière, et je suis en train de construire mon identité. Et finalement, l'identité, ce n'est pas quelque chose de figé. L'identité, elle se façonne. Et je parlerai plus des identités au pluriel, en fait.
Mais ton identité ultime est en Christ, tu l'as dit tout à l'heure.
Mais ce n'est pas toujours facile, parce que même chez les chrétiens, elle est à travers le regard. Je me suis retrouvé dans une église évangélique il n'y a pas longtemps, et je suis venu un petit peu en avance. C'était moi l'orateur. Et je n'ai pas cette tendance à prendre, à occuper les premières places. Je suis assez simple, je n'aime pas trop les protocoles. Et je me suis assis à côté d'une mamie, et elle avait un sac. Un bon Louis Vuitton, peut-être du bled, il paraissait faux. Et quand elle m'a vu m'asseoir à côté d'elle, elle a pris le sac, elle a fait « Ah, Nara !» Donc, cette question de l'identité, elle est souvent sous le regard.
Oui.
On peut être vite étranger dans le regard de l'autre. Je dis bien, je ne suis pas dans la victimisation. La victimisation, c'est ce que c'est quand on associe l'identité à ses blessures. Et ça, c'est un abîme sans fond. Je suis guéri, je suis libéré. Mais en même temps, malgré tout, l'identité, c'est à travers le regard des gens. Ou à travers l'heure, les événements. Quand on me dit peut-être quelle origine, je dis ça dépend l'heure. Ça dépend s'il y a eu un attentat. Souvent, on ne sait pas qui on est, en fait. Et quand je retourne au bled, j'atterris à Casablanca. Rien que de voir la tête du douanier, je me sens à 100% français. Mais à l'inverse, quand je quitte le Maroc et que j'atterris à Charles de Gaulle, rien que de voir le douanier français, je me sens à 100% marocain. J'ai perdu mon identité française. On ne sait pas qui on est, en fait. On ne sait jamais qui on est. Mais on sait une chose, effectivement, celui qui croit, celui qui l'a reçu, il a donné pouvoir, force, capacité, exousia, puissance, de devenir enfant de Dieu. Et ça, il n'y a personne qui peut me l'arracher. C'est à l'intérieur, c'est indélébile.
Il faudrait que l'Église puisse refléter ça, parce que l'Église est multiculturelle. Et il faudrait que justement on gomme toutes ces barrières.
J'ai pas l'impression que l'Église elle est multiculturelle. On a plutôt des églises de noir, des églises de blanc, des églises de vert, des églises de chocolat bleu pâle. Heureusement qu'il y a un réveil afro-antillais. Dans vos églises, le pasteur est blanc et le trésorier.
Je sais pas si c'est une généralité à avoir, mais. Mais je vois ce que tu veux dire.
Et j'ai beaucoup d'anecdotes et je suis sans filtre. J'étais dans une pastorale et le pasteur blanc dit à son collègue « Waouh, dans telle église, ils en sont un troisième culte !» Et le pasteur blanc dit à son collègue « Ouais, mais c'est que des noirs. Moralité, vous faites quoi de vos blancs ?»
Ouais. Non, mais on ne devrait pas être là-dedans, en fait. On ne devrait pas être dans ce genre de choses. Hein. Mais tu parlais un peu justement de l'éducation que tu as reçue, de ces valeurs qui sont finalement en concordance avec les valeurs de la Bible. Tu vois.
Bien sûr.
Et parfois, je pense qu'on peut allier la foi chrétienne à cette culture occidentale. Ça donne une mauvaise vision de ce que c'est vraiment. Tout ce que tu décrivais là, plein de choses qui sont présentes, mais qui ne sont pas du tout le reflet de la foi chrétienne.
Bien sûr. Déjà, l'Évangile, pour moi, il est transculturel. Il traverse toutes les cultures. Et c'est vrai qu'on a cette fâcheuse tendance à enfermer Dieu dans une boîte et dans ce qu'il n'est pas vraiment. La force du christianisme, c'est qu'elle peut, je dirais, transcender, elle peut aller au-delà, je dirais, de toutes les cultures. Elle les respecte, mais en même temps, elle les dénature pas. Après, effectivement, c'est plutôt ce que fait l'homme avec l'évangile et avec sa parole.
Ben, c'est ça.
Il y a des choses qui sont humaines, traditionnelles, qui sont obsolètes, qui sont poussiéreuses, qui sont complètement dépassées. Ce sont peut-être pour eux des vérités à une certaine époque, mais elles s'érigent en dogmes, elles prennent des allures de vérité, mais ce n'est pas forcément biblique. Donc c'est là où on a besoin de contextualiser le message. Contextualiser le message de l'évangile, il y a la forme, il y a le fond, il y a ce qui est essentiel, il y a ce qui est secondaire, et on doit vivre en même temps aussi avec notre temps. Il faut que ça soit un christianisme aussi qui soit pertinent, qui soit en phase, je dirais, avec l'humain, avec la culture, avec le temps dans lequel on est aussi.
C'est trop intéressant ce que tu dis. Oui. Qu'est-ce que tu dirais justement à... Alors peut-être c'était ton cas, toi. Je sais qu'il y a des musulmans qui ne veulent pas se convertir au christianisme, plutôt pour des raisons culturelles que pour des raisons vraiment de foi. Tu vois ce que je veux dire ?
Je leur dirais, le Christ, ce n'est pas le christianisme. Le Christ, ce n'est pas les pasteurs. Le Christ, ce n'est pas les églises. Le Christ, ce n'est pas les mouvements. Le Christ, ce n'est pas toutes ces églises qu'on voit, etc., qui sont en vogue, et tous ces apôtres, astronautes, tous ces prophètes, ces prophètes, etc. L'église, ce n'est pas ça. Le christianisme, pour moi, c'est un mot fourre-tout. Et le Christ, c'est complètement différent. La personne de Yeshua, le Messie, la personne du Christ, je crois que c'est là. On peut être trompé par le christianisme, on peut être trompé par les gens, mais jamais on sera trompé par le Christ. Et pour moi, ça, c'est une véritable révolution. C'est ce que je leur dirais, de ne pas confondre, je dirais, le christianisme avec le Christ.
Et de ne pas confondre aussi la culture occidentale avec le christianisme et le Christ. Et aussi de comprendre qu'on peut être chrétien sans renier ses origines, sans renier sa culture.
Les croisades, c'est le christianisme ?
En tout cas, ce n'est pas le christianisme de la Bible.
Le conflit israélo-palestinien, la guerre du Golfe, c'est le christianisme ? La colonisation, c'est le christianisme ?
Ouais, parfois, c'est fait au nom de...
C'est là où il ne faut pas tromper les gens, en fait. Tout ça, ce n'est pas le christianisme.
Non, mais là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais du coup, toi, comment tu l'as vécu, ce truc, ce changement, en fait ?
Ben, disons que moi, j'avais une mauvaise conception du christianisme. Ouais. C'est clair que pour moi, le christianisme, c'est la débauche, c'est l'alcool... Le christianisme, c'est la guerre d'Algérie. Le christianisme, c'est la colonisation. Et ce n'est pas avec un trait de crayon qu'on va gommer toutes ces choses-là. Parce que tôt ou tard, les choses du passé qui ne sont pas dépassées, qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas assainies, tôt ou tard, elles nous rattrapent. Donc, j'avais vraiment une mauvaise conception du christianisme.
Ouais. Et qu'est-ce qui a changé cette vision-là ?
Ce sont des bonnes sœurs catholiques qui sont venues dans mon quartier. Ce sont les seules qui venaient dans ma cité avec un voile, leur longue robe bleue, les bonnes sœurs capucines qui faisaient un club qui s'appelait le Fripounet pour les fripouilles que nous étions quand nous étions petits. On aurait dit des Batman avec la croix. Et elles prenaient soin de nous tous les mercredis après-midi. Et ça, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que ces bonnes sœurs catholiques nous regardaient et leur façon de nous regarder, c'était pas comme les autres Français. Elle posait sur nous un regard pas désapprobateur, pas accusateur, mais un regard d'amour et bienveillant. C'est bizarre, mais elles avaient le sourire et ça sentait que nous étions aimés. Donc ça m'a beaucoup interpellé, interrogé, à un tel point que je suis allé voir mon grand frère et je lui ai demandé, mais les Batman en bleu, c'est qui ? Mon frère me dit, elles sont hérétiques, elles vont aller en enfer. J'ai dit à mon frère, elles vont y aller avec le sourire. Donc ça interpelle quand même. Quand on voit des personnes aussi souriantes, une belle âme à l'intérieur, tu dis, mais c'est quoi ce christianisme, en fait ? Ça interroge, ça déstabilise et ça pousse à la curiosité.
Donc ça ne correspondait pas à la vision que tu avais ?
Absolument pas. Il y avait une dichotomie et un fossé abyssal entre ce qu'on m'avait dit du christianisme dans les mosquées, tous les préjugés, les stéréotypes, les clichés, on s'est abreuvé, on s'est nourri de tellement de choses dans la communauté musulmane, etc. Et tout ce que le christianisme aussi représente aussi pour nous réellement. Parce que pour nous, vous êtes des idolâtres. Vous croyez en trois dieux, vous dites qu'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois font un, vous prenez Dieu pour un shampoing.
Et on commet le péché le plus grave dans l'islam, c'est l'association.
C'est l'associationnisme, effectivement, en islam. Et c'est un péché qui est irrémissible, c'est un péché qui est... impardonnable, on appelle ça shirk, c'est associer à Dieu deux pseudo-divinités quelque part. C'est une véritable catastrophe parce que Allah wahid, Allah samad, lam yalid wa lam yulad. Dieu, il est unique, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Mais là, ce qu'on comprend pas, c'est que c'est plutôt un engendrement qui est plutôt pas physique, mais spirituel. Et donc, effectivement, le Coran nous parle d'une trinité qui est diamétralement opposée à celle de la Bible aujourd'hui, puisque la Bible, elle nous parle de Père, Fils et Saint-Esprit. Le mot trinité n'existe pas. Mais dans l'islam, c'est une triade. C'est Dieu, Marie et Jésus. Alors que nous, c'est une triunité, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais je l'ai découvert bien après, en fait.
Et justement, quand tu as commencé à découvrir le Christ,
oui.
Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de pratiquer la foi? Parce qu'en tant que musulman, tu étais pratiquant,
oui.
Tu faisais les prières, tout ça.
Bien sûr. Et culturellement, je faisais mes cinq prières, culturellement, je faisais le ramadan. J'étais petit quand même, mais je n'ai pas fait le pèlerinage.
Okay.
Je n'ai pas fait la zakat, je ne la donnais pas, j'étais un vrai crevard. Mais culturellement, oui, je pratiquais quand même l'islam.
Qu'est-ce qui a changé du coup? Parce que dans le christianisme, bah, tu peux aussi prier, tu peux aussi jeûner, tu peux aussi... Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de vivre ta foi?
C'est de se sentir aimé par le Christ. Cet amour inconditionnel est tellement renversant, est tellement puissant, est tellement fort. Il n'y a pas de mots pour décrire quand tu réalises que tu es aimé de Dieu, tu es chéri de Dieu, que tu as été pardonné, que tu as été justifié, que tu as été libéré, que tu as été blanchi, que tu as été nettoyé par le puissant sang de Jésus. Waouh! T'es plus la même personne, quoi. Ce qui change, c'est ton regard sur Dieu. Ce qui change, c'est ton regard sur les autres. T'es plus la même personne, quoi. C'est une autre vie, quoi. C'est une autre vie. Ça, c'est fort, c'est puissant. Il n'y a pas de mots pour décrire cette expérience.
En fait, c'est profond. C'est pas juste dans des œuvres ou dans des pratiques, dans des rites. C'est un changement de cœur, c'est ça?
Il y a le cœur qui change.
La vision de Dieu.
Ta tête, elle change. Ouais. Ton regard change.
La volonté.
En fait, tout change, en fait.
Ouais.
Parce que tout est dans le cœur et dans l'âme. On sait que le cœur, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Et quand Dieu nettoie ton cœur, quand il change ton cœur, quand il transforme ton cœur, ton système de pensée aussi change. Et tu vois le monde différemment et tu commences à aimer tout homme de toute race et de toute condition. Dans une société qui communautarise, qui catégorise, qui met les gens en opposition... dans des religions aujourd'hui qui vous amènent finalement juste à essayer d'atteindre le ciel, tu dis, purée, waouh, le ciel, il m'a atteint il y a plus de 2000 ans. Et je suis en train de faire toutes sortes de gymnastiques pour atteindre le ciel. Mais ça met une claque, la grâce.
Et la particularité du message de l'évangile, c'est ça, c'est que nous, on est incapables d'aller jusqu'à Dieu. C'est lui qui est venu jusqu'à nous,
ouais.
En Jésus-Christ.
Physiquement.
Et c'est là où on revient
physiquement.
À sola fide. Finalement, il s'agit juste de placer sa foi en lui. Et comme tu dis, il est venu physiquement, il a réellement marché sur cette terre,
il a marché sur les terres des hommes. Les disciples, on dit, on l'a côtoyé, on l'a vu, nos mains l'ont touché, il est Dieu lui-même. Et ça, c'est tellement puissant, tellement fort, de réaliser que, je ne sais pas si on réalise, on s'arrête juste quelques instants, l'infiniment grand, il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de fin. C'est une continuité pour toute l'éternité. Il suffit juste de regarder les galaxies, d'imaginer dans sa tête. Il y en a qui veulent atteindre la Lune, il y en a qui veulent atteindre Mars, mais après Mars, qu'est-ce que tu vas atteindre? Ça dépasse l'entendement. C'est infiniment grand. Allahu Ta'ala, ce Dieu qui est tellement grand, qui est tellement puissant, tout commence dans une crèche avec un bébé. Et dans l'idée de vouloir sauver le monde, vous les chrétiens, c'est quand même ridicule, quoi. C'est un bébé qui gazouille dans une crèche, dans une étable, avec des animaux qui va sauver le monde. Tout commence dans une crèche et ça finit à la croix. C'est quand même incroyable, l'histoire de l'évangile. C'est déstabilisant, quand même.
Et ça finit pas à la croix, puisqu'après, il est ressuscité.
Amen.
C'est en ça qu'on place notre foi. Et c'est là où c'est intéressant de se rappeler justement tout ce que tu dis là, que c'est pas juste des histoires, c'est pas juste des trucs inventés, il y a une réalité historique, il y a des preuves.
C'est l'histoire de Dieu avec l'humanité en continu. L'islam nous raconte des histoires que le prophète a reçues, qu'il a défigurées, déformées, et qu'il inscrit dans sa doctrine et dans une logique islamique. Mais par contre, l'histoire de l'humanité avec l'homme, elle se résume à la crèche, à la croix, et bien sûr à la résurrection. Et ça dépasse l'entendement.
Tu dis que l'islam a déformé, du coup, cette histoire-là?
Bien sûr. L'Abraham du Coran n'est pas l'Abraham de la Bible. Le Moïse de la Bible n'est pas le Moïse de la Bible.
Oui, mais du coup, comment savoir si c'est eux ou si c'est nous qui avons falsifié? Parce que c'est eux, ils nous attaquent de la même manière en disant la Bible a été falsifiée.
Oui. Pour moi, c'est tout simple. C'est quels sont les fruits qu'apportait Mahomet, quels sont les fruits qu'apportait le Christ. Ouais. C'est de savoir aujourd'hui, le Christ, Yeshua al-Masih, il n'a jamais péché, jamais menti, jamais triché. Les hadiths nous disent que le péché ne l'a même pas effleuré. La Bible me dit qu'il est le commencement, qu'il est la fin. Yeshua al-Masih, wa tariq, wa al-haq, wa al-hayat. Jésus me dit qu'il n'est pas l'un des chemins, il est le chemin. Jésus me dit qu'il est la vérité, il ne me dit pas qu'il est d'une vérité. Mohammed, il meurt avec ses péchés. Alors que Yeshua al-Masih, il est pur, il est sans tache. Mm-hmm. Le Coran me dit qu'il est celui qu'on doit suivre. Ta'a, taba. Le Coran me dit aussi qu'il est kalimat Allah, qu'il est la parole de Dieu. Le Coran nous dit qu'il est ruh Allah, qu'il est l'esprit de Dieu. Donc tous ces qualificatifs qui sont énumérés, on peut les égrener continuellement dans le Coran, on réalise à quel point la personne de Jésus, on ne peut même pas la comparer à un autre personnage en fait.
Mmh. Et puis la réalité historique, c'est qu'on a des manuscrits plus anciens que le Coran,
oui.
Qui attestent que
si
on a
sur
rien...
sur les manuscrits, là on n'a pas fini.
Et c'est un autre sujet, mais je veux dire,
bien sûr.
Si quelqu'un a falsifié, c'est ceux qui sont arrivés après.
Mohammed, le prophète de l'islam, côtoyait effectivement, des sectes mariales, monophysites, nazaréennes. Et quand il est parlé de falsification, c'est jamais au niveau scripturaire, il faut remettre vraiment le texte coranique dans son contexte, c'est quand il débattait avec les juifs de l'époque, il déformait les paroles verbalement. Mmh. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorantes qui se sont abreuvées d'Ahmedidat, Zakirniak, etc., pour nous dire que la Bible a été falsifiée, quand elle a été falsifiée, à quel moment elle a été falsifiée, par qui elle a été falsifiée, avant ou après la venue de Jésus. Donc, il faut être cohérent, il faut être véritablement factuel, il faut être aussi précis. On ne peut pas dire que la Bible a été falsifiée, parce que Mohammed lui-même nous recommande de lire les évangiles. Et quand on parle de l'évangile théologiquement pour certains théologiens musulmans, c'est dans la Genèse à l'Apocalypse. Le Coran ne peut pas dire en même temps, réfère-toi à la Taurat, aux psaumes, aux zabours et aux évangiles, et en même temps nous dire que le message a été falsifié. Jamais au niveau scripturaire. Effectivement, Mohammed, le prophète de l'islam, faisait des débats. Il y avait des disputes théologiques à l'époque, et la plupart des sectes de l'époque usaient de ruses et de tromperies.
Oui.
Donc ça n'a rien à voir, je dirais, avec le texte que nous avons actuellement, qui aujourd'hui est plus que...
Fiable.
Et plus que fiable.
Ouais, ouais. Mais du coup, il avait peut-être raison en disant qu'il y avait cette falsification.
Ah, bien sûr,
parce que
bien sûr.
C'était des
mais remettant les choses dans le contexte.
Qui notamment, vu qu'il dit que la Trinité, c'est le Père, le Fils et Marie, forcément, là, il y a une falsification, en fait.
Mais même nous, en tant que chrétiens, on n'est pas des moutons. La Bible, elle nous recommande, comme les chrétiens de Béret, quel que soit le prédicateur que j'en fasse, quel que soit le message que j'entends en face, même dans les milieux évangéliques aujourd'hui, il y a toutes sortes de supercheries. Il y a des personnes qui, parfois, veulent exercer avec l'autorité de la Bible, une certaine emprise mentale et spirituelle, ils peuvent être même charismatiques et complètement nous amener à côté de certaines vérités. C'est pour ça que même en tant que chrétien aujourd'hui, je demande véritablement à Dieu, malgré tout, de me conduire encore aujourd'hui dans toute la vérité. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se servir de la Bible pour tromper aussi les gens. Parce que certaines personnes utilisent ce livre-là et on peut raconter ce qu'on veut avec ce livre. Au nom de ce livre, on a tué. Au nom de ce livre, on a fait l'esclavage. Au nom de ce livre, on a tellement commis de choses au nom de ce livre. Et ce livre, tout dépend comment on l'utilise aujourd'hui. C'est pour ça qu'on doit être aussi vigilant en tant que chrétien. Je ne suis pas un mouton.
Je voulais revenir sur justement la pratique de la foi. Dans l'islam, donc il y a ces 5 piliers. Moi, je trouve que c'est des super bons principes, en fait. Tu vas me dire ce que tu en penses. Hein. Mais moi, je trouve qu'ils sont beaux. Et on pourrait même les appliquer en tant que chrétien, tu vois. Le truc de la prière et même d'avoir une certaine rigueur, tu vois, de prier régulièrement. La confession de foi, ça fait partie des choses importantes pour la vie du chrétien. Il faut savoir en quoi on croit et tout ça. Même le pèlerinage, je me demande si en tant que chrétien, on ne devrait pas, non pas l'imposer comme quelque chose de... Mais se dire, c'est cool de se rappeler... Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? D'avoir ce lien historique avec le récit de la Bible, tu vois. Il y a aussi l'aumône. L'aumône aux pauvres, ça reste un principe biblique fondamental. Et j'en oublie un. Le jeûne.
Oui, le jeûne du ramadan. Oui.
Le
jeûne. Un jeûne de pénitence de plus de 7 jours. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur les 5 piliers, puisque on est dans la période, dans la Jahiliya, on est dans la période de l'ignorance, période pré-islamique. Naissance de l'islam, 570 de l'ère chrétienne. Mohammed, le prophète de l'islam, était quelqu'un qui véritablement se posait des questions. Et l'insuffisance je dirais, de leur système religieux de l'époque, montrait bien que c'était quand même l'animisme, le polythéisme qui sévissait dans toute la péninsule arabique. Mmh. Et quand il est en contact avec des moines nestoriens, ces cinq piliers existent déjà dans le christianisme. Mmh. Mais Mohammed, le prophète de l'islam, il va se démarquer des systèmes religieux de l'époque, christianisme et judaïsme. L'appel à la prière, c'est en direction de Jérusalem. Lui, il va changer en direction de la Mecque. En fait, Mohammed, il va pousser même jusqu'à l'arabisation de l'islam, mais il y a quelque chose sur lequel il ne peut pas lutter, c'est la pierre noire, la météorite, ce fétiche pré-islamique qui est condamné normalement par la religion, mais comme il ne peut pas l'enlever, donc il l'intègre dans l'islam.
Ouais, c'est la Kaaba.
Donc ce que je veux dire, c'est que les cinq piliers existent déjà.
D'accord.
Dans le christianisme, okay. Ils existent. Nous avons des moines, c'est pas cinq prières, c'est sept prières chez les moines. Donc c'est ritualisé, c'est mécanique, etc. Mmh. Ce sont des emprunts. Et j'insiste sur le mot emprunt. Mmh. Il va récupérer ces choses-là, les déformer, les défigurer pour les inscrire, parce qu'il faut un socle. La confession de foi, nous croyons en quoi ? En Dieu le Père. Nous avons une confession de foi. Mohammed met en place la confession de foi, ce qu'on appelle la shahada. Le jeûne de Aïshoura, le jeûne juif, il existe. Les chrétiens jeûnent aussi. Et donc lui met en place le jeûne du ramadan. Mmh. Donc Mohammed, il se démarque dans le temps, petit à petit, des religions juives et chrétiennes, et il va mettre en place les cinq piliers. Effectivement, les cinq piliers, aujourd'hui, ils ont été récupérés, déformés, inscrits dans une logique islamique. Est-ce que nous, il faut 1, 3, 4, 10 piliers, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces piliers sont quand même importants, je dirais, dans la foi
oui,
de tout croyant.
Mais merci, parce que tu vois, moi, je ne savais pas cette récupération, je n'étais pas au courant, mais justement, moi, j'avais quand même cette vision-là.
Moi, je suis au courant.
Pas mal. Mais j'avais cette vision-là de me dire, mais en fait, c'est des bons principes.
Bien sûr.
C'est juste que nous, la différence, c'est qu'on n'est pas dans un état d'esprit de légalisme où c'est ces choses-là qui nous font gagner des hassanettes, qui nous font mériter le paradis ou qui nous rendent dignes devant Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Et je ne suis pas tellement d'accord parce que j'ai des chrétiens qui, aujourd'hui, ont confondu la grâce et la graisse. Et de l'autre côté, j'ai des communautés musulmanes. Effectivement, c'est une religion d'œuvre, mais ils la font avec une telle sincérité, une telle piété. Et c'est là où je veux juste attirer ton attention.
Ouais.
Entre celui qui a bénéficié de la grâce et il tombe dans la graisse, et celui qui, effectivement, est dans une religion d'œuvre, mais il le fait avec une telle sincérité, une telle piété. Donc, j'essaie juste de trouver l'équilibre.
T'as raison. Mais du coup, comment t'expliquerais la place des œuvres pour nous ? Donc, si on devait parler de ces piliers-là, ou de ces pratiques-là, est-ce que c'est ça qui nous sauve ? Est-ce que c'est ça qui nous rend bons, qui nous rend justes ?
Ça ne me sauve pas, mais les œuvres et la foi et les œuvres. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le pied droit et le pied gauche. Je pense que, à ma conversion, c'est clair que tous les paradigmes ont explosé. J'ai rien à faire pour atteindre le ciel. Mais j'aime tellement Dieu. C'est inné, ça, à l'intérieur. Je ne suis pas obligé de faire le bien. C'est parce qu'il y a cet amour transcendant, puissant qui m'a changé, que je fais finalement ce bien. Et c'est un réflexe. C'est ma façon de vivre, c'est ma façon de respirer. Malheur à moi, si. Quelque part, on est tellement foudroyé, ébahi, je dirais pas, par tant d'amour, tant de tendresse, qu'on communique ça finalement naturellement.
En fait, la différence, c'est dans l'intention et dans pourquoi on le fait.
Oui.
Mais tu vois, il peut y avoir ce truc-là chez les chrétiens, parfois, de pratiquer des œuvres pour obtenir quelque chose de Dieu.
Oui.
Et en fait, là, on est
C'est là le danger de certains chrétiens.
Oui.
Il y a des gens, ils veulent juste briller sous le regard du pasteur. C'est vrai ?
Ouais.
Ou alors en donnant leur dîme. Ça les rassure. Il y en a qui font le ramadan évangélique. J'arrive pas à comprendre. On vient religieusement, traditionnellement, on jeûne pour jeûner, on se rassure quelque part, on se donne une bonne conscience. Il y a un réflexe religieux qu'elle a. Alors que la grâce, ça passe par la grâce. On explose, le plafond de verre, là, on l'explose.
Et là, les œuvres ont autant plus d'impact si elles sont la conséquence de...
Elles sont vraies.
D'une foi sincère.
Bien sûr.
Et de simplement avoir reçu la grâce de Dieu.
Et une bonne conscience.
Mais c'est juste pour rappeler que ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent et qui nous justifient devant
Bien
Dieu,
sûr.
C'est seulement
Amen,
la foi
Amen,
en
Amen.
Jésus.
Amen. On ne pourra rien faire de plus.
Et toi, du coup, tout à l'heure, tu disais, j'ai laissé les cinq piliers.
Oui.
Aujourd'hui, j'ai cinq nouveaux piliers. De quoi tu parlais quand tu disais ça ?
Non, effectivement, quand on est ex-musulman, le premier pilier pour nous, et on signe le contrat, c'est la persécution. Mm-hmm. Tu seras persécuté à cause du nom de Jésus. Ça, c'est le premier pilier fondamental que tout musulman converti, que tout chrétien doit savoir. La martyrologie. On enseigne la prospérité, la martyrologie, on ne l'enseigne pas. Parce que si nous vivons authentiquement notre foi chrétienne aujourd'hui, et même en France, ce que je ne comprends pas, et je me pose la question, pourquoi en France vous n'êtes pas persécuté encore ? Si vraiment vous êtes chrétien, vous devez être persécuté. Si vraiment vous vivez votre foi et que vous marchez à contre-courant de l'idéologie, de la mentalité, de ce monde dans lequel on est, il y a tellement de lois iniques et sinistres qui sont votées par des ministres sur lesquelles on ne doit pas être d'accord. Et finalement, vous vivez dans des accommodements, dans un confort de langage et vous n'êtes pas persécuté. On ne vous voit pas. Dieu n'a jamais créé Adam et Ève, par exemple.
Oui.
Donc, sur des questions d'éthique, sur des questions de valeur aujourd'hui, l'impression que votre foi, elle est mise en berne volontairement. Mmh. Et petit à petit, vous êtes dans une persécution en France, mais qui est plus une persécution de l'abondance. Vous êtes tellement bien persécuté par le Nutella qui coule de votre nez.
On est persécuté par le confort de
par
vie,
le confort,
en fait.
Et on est face à une église tiède, où les chrétiens sont devenus fragiles, attiédis, mais à un tel point qu'on l'a vu pendant le confinement, quoi.
Je précise parce que le but n'est pas de chercher à être persécuté, mais il y a ce verset de 2 Timothée 3, verset 12.
Il
n'y
a rien d'intrinsèquement bon dans la persécution.
Ben oui.
Je ne la cherche pas. Mais très honnêtement, elle est inévitable aujourd'hui.
Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Tout en étant respectueux, sans être intégriste, fondamentaliste, etc. quoi.
Et même au-delà de la persécution, parfois on fuit à tout prix la souffrance. Tu vois ? Et ce qui nous fait parfois faire des compromis dans notre foi. Tu vois ?
Bien sûr. On évite certains sujets en famille, on évite certains sujets dans le cadre de notre travail. Il faut être fier d'être chrétien, on est fier de notre identité. Peu importe ce que les gens pensent et disent de nous, la persécution, c'est le premier pilier. Et je crois qu'on l'a oublié. Ça, c'est le premier pilier, la persécution.
Ouais, on est peut-être aussi influencé par une culture de le laïcisme, tu vois, ce truc-là de dire un peu...
Oui, c'est la pas foi, de la laïcité, justement, c'est du laïcisme.
La foi, c'est personnel, c'est pour toi.
Il y a tout un héritage qu'on a renié judéo-chrétien. On écrit l'histoire de la France avec une gomme aujourd'hui, mais les plus grandes organisations, les plus grands mouvements à la part, ça a pris naissance avec le christianisme. Les plus grandes ONG, les plus grandes organisations...
Et c'est un bon rappel en tout cas. Et moi, ça m'a toujours frappé, justement, parce que la persécution, bon, c'est un sujet qui me touche. Et je me dis, mince, les chrétiens persécutés et tout, c'est un truc de fou, quand ils sont persécutés par l'État et tout. Mais quand ils sont persécutés par leur propre famille, tu vois, ton père qui veut te tuer.
Parce que l'islam condamne ce qu'on appelle l'apostasie, al-rida. Et donc là, c'est la peine capitale. Parce qu'à force de voir des personnes qui quittent l'islam à l'époque de Mohammed et ses compagnons, donc ils ont institué un petit peu cela. Et donc cette loi sur l'apostasie, aujourd'hui, elle est une réalité, surtout dans les pays à majorité musulmane, où on pratique ce qu'on appelle la charia. Mais aujourd'hui, en France, on a une forme de rejet, d'exclusion quand on se convertit. Je ne peux pas dire que je suis persécuté en France, mais en tout cas, j'ai certaines personnes qui se convertissent et on est obligé de les protéger, on est obligé de les mettre à l'écart parce que certaines personnes sont persécutées, mais physiquement. On ne va pas jusqu'à les tuer, mais j'ai eu déjà un mort en France. J'ai déjà une personne qui a été massacrée à cause de sa foi sans que les gens sachent ce qui s'est réellement passé. Quoi. Donc un musulman qui vient vers moi et qui me dit « Saïd, je veux me convertir », j'y réfléchis à deux fois, ce n'est pas Disneyland là. Donc, je préfère le décourager que l'encourager. Oui. Et je suis obligé de lui dire, parce qu'on ne fait pas de la conversion. Nous, on n'est pas dans une entreprise de Coca-Cola, on n'est pas des Américains. Je dis, mais t'es malade.
Celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même, porter sa croix.
On ne l'entend pas, ça.
Et quand tu dis, ouais, grave.
Jésus guérit, Jésus va vous bénir.
Oui.
C'est Disneyland, parc Astérix gratuit. Garde-toi où tu veux, tu n'auras pas de TV.
C'est ça, en fait. C'est l'évangile de prospérité qu'on entend souvent. Et on oublie de parler des souffrances liées à suivre Jésus.
Et quand les gens souffrent, ils ne tiennent pas, par contre.
C'est trop intéressant ce que tu dis sur le fait de réfléchir à deux fois. Tu vois,
c'est clair.
Jésus dit, mais quand.
Tu t'engages pas comme ça avec Jésus.
Quand quelqu'un il commence à construire une tour et tout, il faut d'abord qu'il fasse les calculs pour voir ça va lui coûter.
Deux ans, ça m'a coûté. Deux ans de travail, deux ans de recherche, deux ans d'études comparatives, Bible et Coran, deux ans de questionnement. T'as peur, t'es lié par la peur. Tu te rends compte, la conversion, c'est un changement, c'est une transformation radicale, etc. Mais tu quittes ton groupe d'appartenance. C'est comme, on vient te voir, Jonathan, on dit, en fait, le père avec qui tu es, c'est pas ton père. Ça va pas ou quoi? Tu meurs. Et là, tu réalises à quel point dans ce parcours, dans ce cheminement, tu perds énormément. Tu perds ta famille, tu perds ton pays, tu perds ta patrie, tu perds ton sang. Tu quittes une sphère pour rentrer dans une autre sphère, mais la sphère dans laquelle tu atterris, elle est plus dans une dimension individuelle, individualisante, indifférente que communautaire. Parce que la Oumma musulmane, la communauté musulmane, elle est puissante, elle est forte dans nos quartiers. Alors que quand on se convertit chez vous, on est seul. On arrive le dimanche, amen frère, que Dieu te bénisse, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on est plus dans une dimension individuelle, individualisante, indifférente, où on se réunit le dimanche, de 10h à midi, 3 cantiques, un petit message, allez, au revoir à la semaine prochaine. Mais la puissance de la Oumma, elle est puissante, elle est forte. Chaque musulman est frère d'un autre musulman. Tu touches un arabe, la cité, elle craque, frère. Elle n'a rien à voir avec votre république qui nous place dans une dimension individualisante. Révolution 1789, tout homme est égal devant la loi face à la république, mais individuellement. Alors que nous, c'est une Oumma, c'est une communauté. Et quand tu quittes ce bon poisson, c'est l'aliénation de l'individu, en fait. Tu deviens un, une particule parmi tant d'autres, et... c'est pas facile.
Non, mais tu fais bien de le dire, parce que c'est pas à ça que devrait ressembler l'Église. Dieu nous appelle à une vie communautaire. Et on devrait être un lieu d'accueil, justement, pour d'anciens musulmans.
Je suis pas dans le politiquement, le religieusement correct.
Non, mais t'as raison.
Je peux pas l'être.
Il faut
pas l'être. Je suis pas là pour perdre mon temps. Pas dans un temps accusateur. Ça m'intéresse pas. C'est juste qu'on se réveille.
Il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes et qu'on réalise les défauts de l'Église contemporaine, en fait. Mais justement, dans ces défauts, et pour revenir sur le sujet de la foi aussi, on parle beaucoup de la foi dans l'Église évangélique, mais parfois j'ai l'impression que c'est un peu creux. Tu vois, on dit de croire, mais croire en quoi? Et aujourd'hui, on parle de la foi, mais tout le monde a la foi. Même un athée, finalement, il croit en ce qu'il croit.
Je crois qu'un athée a plus de foi que moi, parce que pour croire en rien, il faut être balèze. J'ai rencontré justement un monsieur dans le train. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? Il m'a dit, je suis athée, Dieu merci.
Dieu merci. Mais tu vois, tout le monde a foi en quelque chose.
Après, il faut faire une différence entre la croyance et la foi.
Mais justement, c'est là que je voulais en venir. C'est quoi la vraie foi? Quand nous, on dit qu'il n'y a que la foi qui sauve, c'est quoi cette foi-là? Est-ce que c'est juste croire?
Elle se base sur une personne. Déjà, la foi se base sur une personne. Il y a aujourd'hui toute une confusion avec le relativisme. Toutes les religions se valent. Tous les chemins mènent à Marrakech. Mais je pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est provident, qui est sauveur de toute l'humanité, c'est le Christ. Et ma foi, elle est basée sur un socle, sur un message, sur une personne. Et ça, c'est indéniable. La foi, ce n'est pas une sensation, une émotion, une pulsion. On peut croire, rester dans ses erreurs. Mais la foi en Jésus, elle donne une nouvelle dimension spirituelle à notre vie. On a besoin aujourd'hui d'oxygéner un petit peu le cerveau et en remettant les fondements, les bases bibliques de ce que c'est que la foi. Mais la foi en une personne, je dirais en une doctrine, et c'est celle véritablement qui nous libère et qui nous affranchit. Si le Christ vous affranchit, là on est libre. Et ça, c'est la vraie liberté. Quand on l'expérimente, c'est impressionnant.
Moi, j'ai un mot tout simple qui permet de résumer cette idée-là, de placer sa foi en Jésus. C'est l'idée de confiance.
Amen, oui.
On fait confiance en quelqu'un, en fait.
Bien sûr.
C'est pas juste croire quelque chose que je vois pas, que j'imagine. Non, c'est une personne en qui je place ma confiance.
Amen.
Et je place ma confiance en lui, en son œuvre, en la croix.
Bien sûr.
Et je crois que la mort de Jésus à la croix, c'est pour mes péchés. Je fais confiance que ses promesses sont vraies, qu'il va bientôt revenir.
Bien sûr.
Je crois qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est là, qu'il est avec moi tous les jours de ma vie. Et de placer sa foi en lui, du coup, c'est que je lui fais confiance, malgré les circonstances et malgré tout ce qui peut me montrer l'inverse de ce que je crois. Quoi.
Ouais. Comme tu l'as dit, à la foi, c'est la confiance et j'ai vraiment confiance dans cette personne. Elle ne me trahira jamais, elle ne me laissera jamais, elle ne m'abandonnera jamais, elle est pleine d'amour, elle est pleine de tendresse, elle est pleine de délicatesse. Cette personne-là, je lui fais entièrement confiance. Elle a voué sa vie pour moi, je vais vouer sa vie pour elle aussi.
La vraie foi, c'est ça. Et parfois, justement, dans nos églises évangéliques, on insiste sur la foi, mais en plein d'autres choses. Donc, on va croire en la guérison, ce qui est très bien, on va croire en plein de choses. Mais j'ai l'impression que parfois, on s'éloigne de la base.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Et parfois même, on place notre foi dans des choses un peu vides, creuses. Tu sais, je vais placer ma foi en ma proclamation. Je vais croire que je vais réussir parce que j'ai proclamé que j'allais réussir. Tu vois un peu de quoi je parle ?
C'est plutôt de la psychologie positive à l'américaine.
Voilà.
On fait du coaching, du mentoring avec les gens, quoi.
Et c'est un peu une foi creuse et éloignée des principes de l'évangile.
Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord. En fait, on a tellement intellectualisé aussi le message qu'il faut revenir à des choses qui sont simples. Mmh. Seigneur, il nous demande de revenir aussi parfois comme des enfants. Mmh. Et nous, en tant qu'adultes, on a intellectualisé, on a compliqué le message à un tel point qu'aujourd'hui, on est devenu obtus et on ne voit plus la réalité de la simplicité du message qu'on doit transmettre.
Et ça me fait penser à ça, à ce verset qui dit « Si tu as de la foi, comme un grain de moutarde. »
Bien sûr.
Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit ça quand les apôtres lui demandent « Mais Seigneur, augmente notre foi. » Tu sais, il répond finalement à côté de la plaque, parce qu'il ne parle pas d'augmenter la foi. Oui. Au contraire, il parle de trouver une petite foi, toute petite, comme un grain. Parfois, on cherche toujours plus de foi. Jésus, lui, ne s'attarde pas sur la grandeur de la foi,
non,
mais plus sur l'objet de la foi.
Amen.
C'est ce en quoi on croit qui compte plus
bien
que
sûr.
La grandeur en quoi.
Bien sûr.
En fait, si je crois en tout et n'importe quoi, si je crois que Dieu m'a promis quelque chose alors qu'il ne me l'a pas promis, j'ai beau
croire... Il y en a qui se contentent que de miettes, hein, qui tombent par terre de la table. Hein.
Mais ça, c'est...
Et c'est impressionnant. Et le Christ le voit.
Oui, et il honore ce genre de foi.
Bien sûr, bien sûr. Alors qu'il y en a qui ont des mets succulents, mais ils n'ont pas cette foi-là. Il y en a qui se contentent juste de miettes. Et on a beaucoup qui se contentent de miettes aujourd'hui dans les pays fermés, Corée du Nord, Chine, il y en a qui se contentent de miettes et c'est tellement beau à voir.
Et c'est pour ça, tu vois, que dans cette série de podcasts, je voulais revenir sur les cinq solas. On a parlé des cinq piliers et en fait, les cinq solas, c'est la base de notre foi, tu vois. La question n'est pas la grandeur de ta foi, c'est plus en quoi tu crois.
Bien sûr.
Et j'ai une petite surprise pour toi.
Ouais, super.
J'aimerais te faire écouter un morceau, justement, qui parle du sujet de la foi.
C'est lui qui le crucifère, je me suis barré sauf, je suis en mode Barabbas. Lucifer, voudrait que ce soit par les œuvres, mais frérot, c'est par la grâce, celle que tu reçois, seulement par la foi. Ça ne vient pas de soi, c'est le don de Dieu qui produit le don de soi. Mais ce qu'il faut savoir, tu peux pas être sur sa voix sans écouter sa voix.
Très beau, beau son.
Ouais.
Très bien, bon phrasé, bien rythmé. Et puis, un beau message, en tout cas, d'actualité, christocentrique, c'est vraiment bien centré. Mmh. C'est ce qu'il faudrait, en tout cas, entendre plus souvent sur Radio Beurre. Enfin, c'est plus Radio Beurre, là, maintenant, c'est Beurre FM et Skyrock. Ça serait bien de leur balancer ça. C'est que le message, il est annoncé avec force, avec conviction. Et j'aime les phrasés, j'aime les jeux de mots, j'aime les rimes, etc. Et tout. C'est super bien. Je sais pas qui a balancé ça.
C'est moi qui chante.
Bravo, je t'ai pas reconnu.
Ah,
bravo,
okay.
Félicitations. C'est très beau. Je savais pas que c'était toi le coupable.
Moi, perso, j'ai eu du mal à croire. Je luttais avec cette idée que, en fait, si Dieu veut tous nous sauver, bah, il a qu'à se montrer à nous, tu vois. Il a qu'à nous donner des signes. Il l'a fait en Jésus.
Ouais.
C'est fou.
Ouais.
Et au-delà de ça, il y a ce principe de la foi qui est important pour Dieu. Tu sais, Hébreux 11, 6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe.
Ouais. Et qu'il est rémunérateur de ce qu'il
cherche. Et donc, il y a forcément une notion de foi. Et c'est pour ça que Dieu, parfois, ne répond pas forcément à nos prières comme on l'attend. C'est pour ça que Dieu, parfois, ne se montre pas à nous d'une manière spectaculaire, tu vois, parce qu'il y a la foi. L'espérance, tu sais, c'est Romains 8, 24 qui dit « L'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, comment on peut l'espérer encore ?» Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de douter et comment tu fais face à ça ?
Le doute, pour moi, il est vraiment un tremplin pour pouvoir m'affermir, grandir, mûrir. Et parfois, ces doutes sont nécessaires, mais ils revêtent différentes formes. Il y a des moments d'incompréhension. Il y a des moments où tu passes par des périodes de turbulence, tu passes par des vents contraires, pour mieux t'enraciner et pour pouvoir rebondir sur la prochaine étape.
Mmh.
Il est nécessaire, il est important. Qui n'a pas douté ? Les plus grands prophètes ont douté. C'est quand même incroyable. Il y en a un qui annonce la venue du Christ. Il le voit, il le regarde et lui dit « Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
Oui, Jean-Baptiste.
Il se retrouve à Fleury-Mérogis. Il a pris 15 ans de mitard, ou je ne sais pas combien. Il est dans le noir.
Mmh. Il envoie encore ses serviteurs demander à Jésus si c'est bien lui.
Et qu'est-ce que Jésus répond ?
Il dit « Regardez les œuvres que je fais. »
Les aveugles voient. Il rappelle la puissance de la parole de Dieu qui est dans Ésaïe. Et en fait, on chasse le doute par quoi ?
Par la parole.
Par la puissance de la parole.
Mmh.
Et dans les moments de doute, qui sont les miens, que je traverse, à cause des dissensions, des tensions, des trahisons, des coups que tu prends, La vie chrétienne n'est pas facile, le ministère n'est pas facile. Tu as des moments d'incompréhension, tu as des moments où tu t'interroges. La vie chrétienne, elle n'est pas absence d'adversité, elle n'est pas absence de doute, mais la vie chrétienne, elle est même dans le doute, enracinement. Il y a la volonté permissive de Dieu dans ces différents doutes pour pouvoir construire la personne, pour pouvoir l'enraciner. Mmh. Merci Seigneur pour les périodes de doute. J'ai l'impression que c'est un peu comme le mot persécution. On ne veut pas douter, mais le doute, il est nécessaire. Mmh. Il nous renforce, il nous fortifie.
Il nous apprend aussi l'humilité, il nous apprend à compter sur Dieu.
La vie chrétienne, elle est longue. On n'est pas arrivé au bout encore. Mmh. On a beau être labellisé, tatoué, vacciné. Il faut arriver jusqu'au bout. Mmh. Et le chemin, il est encore long, très 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 long.
Je pensais à Marc 9, 23, 24, oui. Où Jésus, il dit, mais tout est possible à celui qui croit. La personne à qui il dit ça lui répond, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité.
Amen.
Et ça m'a toujours frappé, je crois, oui. Il proclame, il fait une profession de foi, oui. Mais il dit, viens au secours de mon incrédulité. Donc il y a en même temps une foi, une confiance en Jésus,
bien sûr.
Mais en même temps un aveu de faiblesse, aide-moi, j'ai besoin de toi et j'ai bien du sûr. Mal à croire. Tu vois. Oui. Et je pense que c'est le bon équilibre finalement à avoir.
Je me méfie des chrétiens qui ont toujours la tête dans les nuages. Je me méfie des chrétiens qui sont toujours « Amen, Amen, gloire à Dieu, par la grâce, frère !» Les chrétiens qui sont en train de tout spiritualiser, je me méfie des chrétiens qui vont toujours bien, les TTS, les très très spirituels. Mmh. Je me méfie. Mmh. Je suis des personnes qui ont pris des balles, qui ont des cicatrices, plutôt que des gens qui me disent « Ouais, tout va bien, etc. Mmh. »
Donc c'est la vie chrétienne normale.
Hein. Amen, amen, c'est la vie normale.
Mais il faut dire aussi qu'on a trouvé en Christ beaucoup plus que tout ce qu'on a perdu.
My God.
Parce que tout à l'heure, on parlait des sacrifices et des difficultés, mais combien on a trouvé en Christ?
On a tout trouvé.
On a tout
amen,
gagné.
Amen, amen, pour ça qu'on est là, puis on regrette jamais, hein. Je ne viendrai jamais en arrière. Oh, Jesus.
Mais justement.
C'est le plus beau but de ma vie.
Saïd, il te reste 30 secondes.
30
secondes pour t'adresser à quelqu'un et pour le convaincre de placer sa foi en Jésus.
Pour moi, c'est différent aujourd'hui d'être chrétien que d'être enfant de Dieu et disciple. Pour moi, c'est très important de te dire, moi, je ne veux pas t'amener à l'église, je veux t'amener à Jésus. Et ce que je te demande véritablement de faire, si vraiment dans ton cœur, il y a juste une petite espoir, un petit étincelle justement pour que tu mettes le doute. Demande-lui, avec force, avec amour, avec détermination, il pourra répondre à toutes tes questions, à toutes tes difficultés. 30 déjà ? Ah, tu m'as tué là.
Ah, c'était 30 secondes.
Ah, il me faut donner 30 minutes. Merci en tout cas.
Ouais, merci Saïd.
C'était un plaisir d'être avec vous.
Plaisir partagé.